Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile ne nous dit pas aujourd'hui explicitement que les apôtres aient assisté à cet événement fameux des lamentations de Jésus sur Jérusalem. Mais on peut le supposer parce que le récit nous en est donné par Saint-Luc, et Saint-Luc, vous le savez, n'était pas un apôtre, c'était un homme du deuxième cercle, c'était un disciple, et il tient tous ses écrits du témoignage des apôtres qui ont directement assisté aux scènes. Voilà donc que les apôtres ont dû voir le Seigneur Jésus se contracter et tomber en larmes devant la ville sainte. Et ça a dû leur faire évidemment une impression très profonde, ils ont dû être touchés jusqu'au fond des tripes, ces bons apôtres, parce que finalement, il est assez peu courant que le Seigneur tombe en sanglots dans l'Évangile. Alors je sais, on me citera des scènes fameuses comme le fils de la veuve de Naïm, ou comme ce cher Lazare, devant le tombeau duquel le Seigneur tombe là encore en sanglots. Mais je crois que c'est à peu près tout. Nous avons trois ou quatre scènes seulement où le Seigneur gémit, où le Seigneur pleure devant ses apôtres. Et puis, voir le Maître, qui d'habitude est si serein, et si maître de lui, et si souverain, jusqu'à commander aux éléments naturels, souvenez-vous. Voir ce Maître pris d'un tel épanchement, il faut bien croire que les apôtres en furent littéralement bouleversés. Au passage, petite première parenthèse, comme vous le savez, j'en suis coutumier, mais c'est ainsi, au passage que Jésus, qui est l'homme parfait, sans l'ombre du moindre péché, puisse ainsi tomber en larmes, frémir de sanglots, je crois que c'est autorisé pour tous les temps, et à notre prochain, et à nous-mêmes, que nous puissions de temps à autre avoir ce genre de comportement. Il est une morale prétendument catholique, je la crois beaucoup plus laïcarde, façon 19e siècle, qui prétend que si l'on veut être un homme, une femme digne de ce nom, et a fortiori un chrétien digne de ce nom, il n'est pas permis de pleurer, d'exposer ses sentiments, mais moins encore de pleurer, parce que c'est accabler l'autre avec nos jérémiades. Or, il est des pleurs, mes frères, qui sont tout à fait légitimes. Les pleurs du deuil, par exemple, ou même les pleurs de l'incompréhension devant les desseins de la Providence, parce que l'on souffre. Et ces pleurs-là, croyez bien que le Seigneur Jésus les accueille, que le Seigneur Jésus se laisse toucher par ces pleurs, comme il s'est laissé toucher par ceux qui venaient le voir en pleurs pendant sa vie publique, qui nous est relatée dans les évangiles. Je ferme la parenthèse, et j'en reviens à ces fameuses lamentations de Jésus sur la ville sainte. Pourquoi une telle réaction du Christ? Il vient d'être accueilli dans l'exultation par les rameaux et par les cris « Hosanna » au plus haut des cieux, par les cris qui exaltent le Dieu béni parce que son Messie entre dans la ville sainte. Il est curieux que quelques instants plus tard, le Seigneur Jésus, loin de se réjouir avec cette foule de cette entrée en liesse qui laisse espérer le meilleur, il est curieux que Jésus se lamente, pleure et aille jusqu'à prophétiser la chute de Jérusalem. Là encore, l'esprit des apôtres, il faut se mettre à leur place, a dû être profondément heurté par ce paradoxe. C'est que le Seigneur Jésus, dans son omniscience, parce que pleinement homme, il est également pleinement Dieu, sonde les reins et les cœurs et sait que cette acclamation en liesse n'est qu'un feu de paille, que quelques jours plus tard, cette même foule réclamera à corps et à crie qu'on le crucifie. Et le Seigneur Jésus pleure sur cette ville sainte parce qu'il est profondément blessé que la Seigneur Parse de l'humanité, ce peuple qu'en tant que Dieu avec son Père et le Saint-Esprit, il a de toute éternité préparé, mis à part, ce peuple élu et ses élites, repousse la mission finalement pour laquelle, la seule mission pour laquelle ils ont été constitués, c'est-à-dire l'accueil du vrai Messie. Le Seigneur Jésus est en but à une contradiction et à un partiel échec de sa mission. Voilà pourquoi les sanglots, voilà pourquoi les lamentations. Que fait alors Jésus? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous le savez parce que vous avez écouté comme moi l'Évangile, il prophétise la chute de Jérusalem. On a prétendu qu'il s'agissait d'une reprise midrashique, c'est le terme technique qu'on utilise, pour des prophéties de l'Ancienne Alliance qui annonçaient la chute de Jérusalem au 6e siècle avant Jésus-Christ, sous les coups de boutoir de l'armée persane et sous le commandement de Nabucodonosor. Peut-être que Jésus fait une reprise de ces prophéties de l'Ancienne Alliance, peu importe, toujours est-il que nous savons, nous, parce que nous connaissons la suite de l'histoire, que Jésus réactualise ces prophéties et qu'il parle de la chute bien bien réel qui va se passer quelques décennies plus tard, sous l'armée de Titus, c'est-à-dire qu'il ne restera plus, comme le dit Jésus, pierre sur pierre dans Jérusalem, et ce jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez. Le Seigneur Jésus s'en prend à son peuple, non pas qu'en amont et conduit, il décide de faire valoir des verges et d'écraser ce peuple comme par vengeance. Nous le savons, ce n'est pas du tout le genre de notre Seigneur. Si le Seigneur prophétise cela, c'est simplement qu'il enregistre les conséquences néfastes de quelque chose qu'il déplore, que son peuple élu ait rejeté la paix. Il est en matière de paix, vous le savez, parce que peut-être vous avez ouvert Saint-Augustin, ou tout simplement parce qu'il s'agit d'un peu de bon sens, il est en matière de paix, deux paix. Une paix fictive, une paix réelle. Une paix armée, comme dit Saint-Augustin, et une paix de Dieu. Ce que le peuple élu, ce dont le peuple élu vit, au moment où Jésus parle et se lamente sur Jérusalem, c'est de la paix armée. C'est de cette fausse paix qui croit, parce que l'on s'arrange avec Dieu, avec quelques, en sacrifiant à quelques obligations cultuelles, rituelles, parce que l'on feint de respecter son frère, du moins le juif, qui est le seul à pouvoir être considéré comme son frère, alors on considère que la paix existe, qu'elle est solide et que Dieu en est le garant. C'est cette paix fictive, c'est cette paix pharisaïque qui est une réalité à Jérusalem et dans toute la Terre Sainte et que vient dénoncer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus appelle à une paix autrement plus profonde, à la paix dont il est le prince. C'est le terme qu'on emploie dans les prophéties pour désigner Jésus, le prince de la paix. Or, que faut-il à cette paix pour qu'elle soit effective, qu'elle soit autrement plus profonde que cette fausse paix, cette paix armée qui n'est que pour un temps, dont se satisfont les pharisiens? Il faut que la justice soit respectée. C'est ce que dit le psalmiste, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Le Seigneur Jésus rappelle au peuple élu que tant que la justice ne sera pas respectée, alors la paix ne sera pas durable. De quelle justice s'agit-il ? La justice, vous le savez, c'est cette vertu qui fait rendre à chacun son dû. Et en premier lieu à Dieu, et en second lieu au prochain. Puisque le peuple élu refuse de reconnaître dans le Seigneur Jésus Dieu même et de lui rendre le culte qui lui est dû, alors le peuple élu viole profondément la justice. C'est ce que vient lui annoncer Jésus de façon cachée. Puisque le peuple élu se tient pour quitte lorsqu'il a rendu justice à l'égard de son frère juif et seulement de son frère juif, mais qu'il n'a que faire de ceux qu'il appelle les païens ou ceux qui croient en des riens, comme on les appelait à l'époque, alors Jésus explique au peuple juif que la justice à l'égard de son frère n'est pas respectée. Ni la justice à l'égard de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, ni la justice à l'égard du prochain, c'est-à-dire de tout homme qui vient et qui est insemblable parce que lui aussi fait à l'image de Dieu. Puisque la justice à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain n'est pas respectée, la paix que les pharisiens prétendent voir régner à Jérusalem et dans toute la Terre Sainte est fictive. C'est ce que leur dit le Seigneur Jésus. Il entre ensuite dans le temple et dénonce les trafics qui s'y font, vous savez, ces échanges d'argent et de bestioles qui étaient parfaitement légitimes dans une certaine mesure, parce que Dieu même avait prévu que les choses se passent ainsi. On entrait dans le temple avec de l'argent romain, et parce que cet argent était impur, il fallait l'échanger contre de l'argent du temple, de l'argent parfaitement juif, parfaitement pur, de l'argent cacher, j'allais dire. Et avec cet argent cacher, on achetait les bêtes du sacrifice. Tout cela était parfaitement légitime, voulu par Dieu, prévu par les codes de loi. Le problème, c'est que d'une part, certains se servaient au passage, indûment, puisque les braves gens ne connaissaient pas exactement le montant du change, et d'autre part, comme dans d'autres sanctuaires contemporains ceux-ci, je pense évidemment à Lourdes en premier lieu, mais également à la rue du Bac, où ces chères sœurs de Saint-Vincent de Paul officient, parfois de façon un peu mesquine, bref, il arrive donc que les négoces prennent le dessus sur le culte qui doit être rendu en toute gratuité dans le temple de Dieu. Voilà ce que dénonce le Seigneur Jésus, et c'est ce qu'il appelle des trafics de négociants. ces trafics de négociants, c'est un trafic avec la justice divine. Voilà ce qui nous concerne, mes frères. J'en viens pour conclure cette petite homélie à notre propre situation. Les reproches que Jésus adresse au peuple qui lui est contemporain, au peuple juif, c'est-à-dire de manquer à la justice à l'égard de Dieu même et à l'égard de leur prochain, de se livrer en lieu et place de la justice à des trafics de négociants, n'est-ce pas exactement ce que nous faisons nous-mêmes lorsque nous nous en tenons quitte avec Dieu parce que nous avons respecté l'obligation de messe d'assistance à la messe dominicale, de la confession annuelle, parce que nous avons fait nos Pâques et quelques obligations de surcroît, nous considérons que nous sommes de bons chrétiens et que Dieu nous doit le salut. Mais voyez-vous, cette vision que j'appellerais des 35 heures chrétiennes n'est pas exactement celle qui permet d'accéder au ciel. Il nous faut entrer dans une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, comme nous dit Jésus. C'est-à-dire dans une justice surabondante à l'égard de Dieu. Celle du chrétien qui, à chaque instant de sa journée, même s'il n'en a pas conscience effectivement à chaque instant, mais qui s'efforce de se mettre en permanence sous le regard de son Dieu. C'est-à-dire, lui à sa place, petite créature, et Dieu à sa place, créateur et provident. Il s'efforce en permanence de rendre ainsi un culte à Dieu, de montrer à Dieu qu'il attend tout de lui, qu'il n'est pas grand-chose, qu'il lui rend grâce pour tous ces biens qu'il lui prodigue à longueur de temps. Voilà la vraie justice que nous devons rendre à l'égard de notre Dieu. Quant à la justice à rendre à l'égard de notre frère, il est très fréquent que celle-ci se résume, j'en ai déjà parlé ici, mais il faut y revenir, je crois, sans cesse, parce que eh bien, les herbes folles poussent, surtout en cette période estivale, avec beaucoup de pluie comme ça, sur nos âmes, malheureusement, et pas seulement sur nos prairies. Nous résumons très souvent ces rapports de justice avec nos frères à un tableau où, de façon comptable, nous mettons les crédits et les débits de l'autre à notre endroit. Il faut évidemment passer outre cette tentation mesquine, ces relations de justice qui en réalité n'en sont pas. Il faut, comme le montre le Seigneur Jésus lui-même, pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, être prêt sans cesse à effacer l'ardoise, si ardoise il doit y avoir, avec les débits de l'autre inscrits dessus, mais il serait mieux encore d'ignorer cette ardoise. Vous voyez que le Seigneur Jésus apprend à son peuple que tant que la paix ne sera pas authentique, c'est-à-dire respectant une justice, mais qui n'est pas la justice des hommes, qui est la justice de Dieu même, rendant à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire tout, rendant au prochain autant qu'on le peut, c'est-à-dire lui remettant sans cesse sa dette, tant qu'on ne respectera pas cette justice qui permet de fonder la vraie paix, alors tout s'effondrera en permanence et tout sera sans cesse à reprendre. Si nos vieux pays de chrétienté se sont effondrés quant à la foi, se sont effondrés quant à la civilisation aussi facilement que ce qui s'est passé il y a quelques décennies, sans doute était-ce parce que ces peuples n'étaient pas encore suffisamment convertis. Alors il nous faut revenir à l'Évangile toujours plus étroitement et recevoir cette paix qui procède d'une justice authentique, recevoir cette paix, non pas la construire, mais la recevoir. C'est Jésus qui, le jour de sa résurrection, dit à ses apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas telle que le monde vous la donne. » C'est la paix qui vient d'en haut, la paix qui vient du ciel, celle qui existe dans la Trinité même et à laquelle Dieu, par le Christ, nous offre d'être participants. Mes frères, examinons-nous, si vous le voulez bien, au cours des jours qui viennent, sur cette paix et sur peut-être les manquements que nous faisons quant à cette paix authentique, le manque de surabondance dans la justice que Jésus nous demande d'appliquer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.